Salut et bienvenue dans Du Temps et des Jeux, le podcast qui s'intéresse aux jeux vidéo qui ont le plus marqué nos invités. Moi, c'est Chris et comme toujours, je suis accompagné de Yann.
Salut à tous.
Et aujourd'hui, pour notre premier épisode bonus, on est en double bonne compagnie vu qu'on reçoit Laure et Noah de For The Plot, un podcast que j'apprécie beaucoup. For The Plot, c'est un podcast jeux vidéo où à chaque épisode, elle s'intéresse dans le détail à l'histoire et au scénario d'un jeu. The Last of Us, Life is Strange, It Takes Two ou encore le dernier Resident Evil ont eu droit à leur propre épisode. Et à chaque fois, c'est fait avec amour, passion et pas mal de blagues. Rien que pour ça, je pense que ça vaut le détour. Comment vous allez les filles ?
Salut, trop bien !
Ça va, trop contente d'être là !
Yes, nous aussi ! Comment se passe l'été, etc. Quoi de beau ?
Pas trop d'été quand même.
À Lille.
Tu dis ouais. Ça, tu... C'est pas cool. Non, il pleut. Donc, on joue beaucoup. En tout cas, moi, je joue beaucoup et je regarde des films.
Oui, mais je fais que ça aussi. Je suis une des seules personnes à avoir une PS5. Alors du coup, je l'utilise. Mais il n'y a pas encore de jeu dessus. Donc ça me déprime. du coup, je refais des vieux jeux qui n'ont pas de mise à jour PS5. Du coup, bah, c'est bof. Mais elle est là, elle est jolie, quoi. Elle prend de la place. Donc c'est bien.
À côté du modem.
Cool. Oui.
Du coup, petit épisode crossover à la croisée des concepts de nos deux podcasts. À tour de rôle, on va parler d'un jeu dont le scénario nous a marqué et raconter notre expérience sur ce jeu en question. Qui veut se lancer ? Laure, je crois que t'es pas mal motivée.
J'ai été désignée d'office pour vous parler de mon jeu.
Ouais. Non, elle a été désignée.
On va pointer du doigt. Moi, je vais vous parler de Heavy Rain. Donc Heavy Rain,
yes.
C'est un jeu de Quantic Dream qui est sorti il y a une dizaine d'années. Et si j'avais envie de vous parler de ce jeu, c'est parce que pour moi, c'était vraiment le jeu, une des fins les plus déprimantes que j'ai pu avoir vraiment dans ma vie, quoi. Donc en fait, je sais pas si vous connaissez le style, c'est ce qu'on appelle des jeux interactifs. C'est-à-dire que y a pas... Tu vois, tu vois des cinématiques et tu dois faire des choix.
Ouais.
Donc, je me souviens, toi, je t'ai entendu parler, Yann, tu disais que toi, ça te tétanisait, que tu pouvais pas faire de choix. Je pense vraiment que ce genre de truc, ça pourrait pas t'aller, quoi. non, mais donc, du coup, en fait, le principe, c'était vraiment de faire des choix. Et je crois que moi, ce qui m'avait captivé, j'étais à Micromania, tu vois, pour acheter le jeu d'occasion et je me suis dit, ah, ça a l'air trop bien. Et genre, la catchphrase, c'était « Jusqu'où iriez-vous pour sauver celui que vous aimez ?» Donc, ouais, c'est... Donc, je me souviens, genre, j'ai acheté ça le vendredi après-midi, je le mets dans ma PS3 à l'époque et j'ai trouvé ça magnifique, c'était trop beau. Donc, en fait, on fait la connaissance de Ethan, qui a une vie hyper belle, tu vois. Il est architecte, deux enfants, une femme. Et ton but, c'est de le lever. Il se lève. Donc, c'est toi qui le lève. C'est toi qui l'amène à la salle de bain. C'est toi qui le lave, tu vois. Tu choisis ses fringues. Et donc, voilà, c'est ce tuto où tu le vois déambuler un petit peu dans sa maison magnifique d'architecte. Il prépare l'anniversaire de son fils. Donc, vraiment, c'est un tuto qui est... Moi, à l'époque, ça m'avait... Enfin, j'avais trouvé ça magnifique, tu vois. Je me suis dit, oh, ils sont tellement réalistes. J'ai vu quelqu'un y rejouer il y a 3 mois. C'est dégueulasse aujourd'hui. C'est immonde.
C'est affreux. Ouais, bah la PS3, quoi.
Ouais. Et c'est ouf. Enfin, ce qu'ils ont fait depuis Détroit. Enfin. Et donc voilà, c'est vraiment cette vie de ce mec voilà à qui tout réussit et tu le vois le lendemain, c'est faire les courses de la rentrée dans le mall avec sa femme et ses enfants et son enfant Brandon demande un ballon rouge et tu lui achètes et le temps que tu sortes la petite monnaie de ta poche, Brandon a disparu. Donc là s'ensuit une phase hyper stressante où tu dois juste être dans le centre commercial, genre, et chercher Brandon, et t'as juste le bouton X. Et tu dois spammer le bouton X, et lui qui l'appelle Brandon! Brandon, où es-tu?
Donc, le petit Brandon est recherché à l'accueil.
C'est ça. Mais c'est hyper stressant. Franchement, moi, je trouve que c'est une scène hyper stressante. Et donc, bah, pas de chance. Le temps que tu spams et que tu retournes 2 ou 3 enfants qui ont un ballon rouge, mais qui ne sont pas Brandon, tu retrouves Brandon en train de se faire écraser par un camion à la sortie du centre commercial. Et sur cette phrase d'intro hyper déprimante s'ouvre Heavy Rain. Donc c'est le générique avec de la pluie, enfin horrible, et on retrouve Ethan Mars quelques années plus tard où vraiment tu vois Glowdon, hein, quoi. Il habite sa femme l'a quitté, il habite dans une petite baraque de pavillon de banlieue, il pleut partout, enfin c'est horrible, et il s'occupe de son deuxième fils, celui qui reste, Sean. Tu dois lui faire voilà les devoirs dans un temps imparti, etc. Donc ça a pas l'air d'être cool. Tu sens que Sean il t'aime pas trop. Enfin tu vois c'est un peu la misère. Et sauf que tu te réveilles en plein milieu de la nuit et Sean a disparu. Donc vraiment pas de chance pour Ethan. Mauvaise année, mauvais karma pour Ethan dont son fils.
Ouais, mais jamais 203, ouais, tu sais.
Il en avait que deux. Du coup tu vois tant... heureusement qu'ils en ont pas fait un troisième. Et c'est un peu comme ça que s'ouvre, enfin commence cette phase de jeu puisque tout le monde va essayer de rechercher ce petit gamin et tu vas découvrir les autres personnages puisque tu ne joues pas uniquement que Ethan. Tu vas jouer trois autres personnages. Tu vas jouer dont j'ai oublié le nom, le mec du FBI, une journaliste qui s'appelle Madison, je crois, qui, elle, recherche effectivement le fils d'Ethan, et un détective qui est vraiment le détective vraiment basique que tu pourrais trouver, c'est-à-dire un peu bedonnant, la cinquantaine, d'origine irlandaise, quoi. C'est vraiment le détective basique.
Le stéréotype.
Ouais, c'est ça.
Le Sherlock Holmes du pauvre.
Exactement, on peut l'appeler comme ça si tu veux. Donc, tous veulent chercher Ethan. Et le problème, c'est que c'est pas le premier enfant qui est enlevé. Et il y a beaucoup d'enfants qui se sont fait enlever ces dernières années par un type qu'on appelle le tueur à l'origami, puisqu'il enlève des enfants et en même temps, il laisse de très jolis petits origamis sur place. Et on sait que quand un enfant est enlevé, il est retrouvé mort noyé dans les 2 ou 3 jours après. Donc le temps presse, quoi. Il faut aller vite, quoi. Il faut retrouver Sean. Et c'est là que les choses vont être assez intéressantes. Et c'est là où le jeu va basculer un petit peu dans ce que j'appelle un saw-like, si vous avez vu les films d'horreur saw, puisque Ethan va recevoir une boîte contenant un origami qui lui dit « Si tu réussis à faire ces épreuves, tu auras l'adresse où est caché ton fils et tu pourras sauver ton fils. Mais attention, ne le dis à personne et surtout ne préviens pas la police. » Donc, Ethan va devoir faire, nous, en tant qu'Ethan, on va devoir, c'est là où la question de choix, tu vois, jusqu'où iras-tu pour pouvoir sauver ce que t'aimes est assez importante. Donc, tu vas avoir le premier choix, enfin, la première épreuve, ça va être de ramper sous des barbelés. Donc, c'est basique. Donc, t'as une série de QTE pour pouvoir savoir si t'as réussi ou pas l'épreuve. Le deuxième, c'est de rouler à contresens sur l'autoroute, qui peut impliquer de tuer des gens, etc. Le troisième qui est un peu tu vois genre on upgrade à chaque fois c'est tuer un homme donc cette fois c'est tuer un dealer donc, est-ce que tu veux tuer cet homme ou pas et à chaque fois que Ethan fait des choix bah il est un peu plus amoché, est-ce que tu réussis pas, t'as des lettres pour avoir l'adresse mais du coup il y a le mec du FBI qui est en train de se dire non mais quand même toi Ethan tu serais pas un petit peu suspect, je prends l'accent du sud pour faire le titre du FBI, est-ce que tu serais pas un peu suspect toi, tu roules à contresens sur l'autoroute, tu dis rien, donc le mec du FBI se met à chasser notre bon ami Ethan, lui il se retrouve à avoir des blessures etc, notre bonne amie la journaliste elle essaye d'enquêter sur le tueur aux origami et notre bon détective lui également essaye d'enquêter sur le tueur avec comprendre l'origine story on va dire du tueur aux origami en allant voir les familles des victimes, des anciennes victimes pour comprendre un petit peu comment tout ça se passe. Donc tu vois on a ces quatre histoires qui sont on va dire un petit peu déconnectées les unes d'entre elles et donc t'essayes de savoir quel est le faux du vrai, le vrai du faux puisque pour en rajouter un petit peu plus au dossier de notre ami Ethan, ce dernier a des trous noirs, des blackouts. Ah. Par exemple, il saurait pas dire où il était quand son fils a disparu, tu vois.
Okay.
Donc ce qui est doublement suspect pour notre monsieur du FBI et doublement suspect pour nous, le joueur, puisque on ne sait pas c'est pas forcément qui est le tueur. Donc on a joué, on va dire, une dizaine d'heures pour arriver enfin au dernier choix, qui est, alors je vous dis ça, j'ai pas fait dans ma première partie puisque ma première partie a été une catastrophe. Je ne suis même pas arrivée au quatrième choix puisque le mec du FBI m'a capturée avant que je puisse arriver à la quatrième épreuve, qui est Ethan arrive à la quatrième épreuve et on lui dit, écoute, tu vas boire ce poison. Tu vas avoir le temps de récupérer ton fils, mais à la fin, tu vas mourir, mais tu auras sauvé ton fils.
Ah oui, bof.
Oui, que de choix qu'un des gars dans ce jeu vidéo. Il faut savoir que moi, quand j'y ai joué, c'est très important. Je vous ai laissé alors que j'avais acheté mon jeu à Micromania. Ce que je vous ai pas dit, c'est que quand je l'ai mis dans ma PlayStation 3, il y a un ami qui est venu me voir, je sais pas, 2 heures après que j'ai commencé. Il m'a dit, oh bah tiens, à l'époque il venait récupérer des cours. C'est quoi ce jeu? Je lui dis, bah, attends, regarde, c'est trop bien. Enfin, tu vois, genre tu peux laver le mec, tu peux choisir ses fringues. C'est un peu comme les Sims, c'est génial. Il fait, oh ouais, ok. Puis c'est assis sur mon canapé et on est resté pendant 12 heures sur ces canapés à jouer. Toute la nuit. Donc on était vraiment, tu vois, genre on était à fond quoi. Enfin, on était accrochés quoi. Et vient la scène finale où enfin on va essayer de sauver cet enfant. Donc on apprend que en réalité, l'enfant, tu sais, il est mis dans une espèce de trou. Et en fait, vu qu'il pleut tout le temps, c'est la pluie qui fait qu'il se noie.
Ouais. OK.
Parce que si t'arrives pas au moment à temps pour le délivrer, bah la pluie a la noyé quoi. Et du coup, donc nous, dans notre partie, Ethan a été considéré un peu trop suspect par le type du FBI. Donc le type du FBI, il a coffré. Le type du FBI pense qu'il a le suspect, donc il a un petit peu arrêté l'enquête. Il nous reste plus que notre journaliste et notre détective pour pouvoir sauver l'enfant, tu vois. Sauf que, spoiler alerte, à l'avant-dernier chapitre, tu découvres que le mec qui est le bon vieux détective irlandais qui était trop sympa et tout, avec qui t'avais fait plein de trucs, t'avais changé un enfant, tu avais fait cuire des œufs, tu vois, genre t'avais fait vraiment, tu vois, tu l'avais aimé ce type.
Tous les symboles d'une bonne personne.
Ouais, c'est ça, tu découvres que c'est lui le tueur aux origamis, donc tu découvres que t'as joué le tueur.
Non.
Ouais, ça c'est. Donc déjà, tu vois, ça te fait un coup. Tu fais putain, j'ai kiffé ce mec. Tu sais, il y a une espèce de petite histoire d'amour avec justement une des mères, une des mères des victimes. Tu découvres qu'en fait, s'il va dans les familles des victimes, c'est pour récupérer lui ses preuves. Mm-hmm. Donc tu vois, genre t'as les boules quoi. Et donc il y a la confrontation entre lui et la journaliste Madison, tu vois. Qui est aussi, j'en ai pas parlé, mais qui à l'époque, tu vois, je me suis dit putain, elle est trop badass, tu vois. Elle a une moto, elle a un casque, elle est journaliste, enfin, elle a un rôle de ouf pour une femme, c'est ouf. Quand j'ai revu y jouer il y a quelques mois, tu vois, elle est un peu là pour faire l'infirmière d'Ethan, quoi. Donc bref, donc elle est là pour sauver l'enfant, sauf que dans notre partie, il était 7 heures du matin, je sais pas, on était fatigués, on a fait un QTE merdique, elle est morte. Et notre partie se termine de Sean est mort, donc l'enfant s'est noyé, le père est en prison, le mec du FBI se rend compte qu'il a fait une erreur, il se suicide et le tueur aux origami s'en va libre.
Wow.
C'est la fin d'Evie Red. Et j'ai eu le seum, mais pendant des jours et des jours, je me souviendrai toujours, on s'est regardé avec mon pote, mais d'une tristesse sans nom, tu vois, on s'est dit, mais on a passé 12 heures sur ce jeu pour ça. Et je sais pas si vous avez vraiment, enfin, dans les Quantic Dream, en général, la fin est hyper, hyper brute, tu vois. Genre, c'est violent. Ça se finit et hop, boum, générique, tu vois. Et là, t'es là, tu dis, mais attendez, c'est nous le temps de, voilà. C'était super violent. C'était Heavy Rain. Si vous y jouez, j'espère que vous aurez une meilleure fin que moi. Voilà.
Trop de questions. Déjà, est-ce que je peux te demander si l'inspecteur en question, l'Irlandais, là,
ouais.
Est-ce que en y repensant, il y avait des indices qui laissaient comprendre que c'était lui le gars ou pas?
Oui, il y a des indices qui t'aident, mais tu vois, c'est assez rapide parce que en fait, t'as sa backstory à lui. Tu vois, à un moment donné, tu le joues en tant qu'enfant, et tu comprends que son frère, lui, est mort de cette même façon et qu'il n'a pas réussi tu vois, à sauver son frère, et okay. c'est comme ça. Mais c'est vraiment, il y a un petit chapitre révélation, tu vois. Et c'est super choquant parce que, en tout cas, moi, je l'avais pas vu venir, mais aussi peut-être que j'avais pas forcément tous les codes, de ce genre de film noir, jeux vidéo. Mais je suis pas sûre que, je pense que tu peux arriver à le voir, mais à mi-jeu, tu vois. Mais le but, c'est vraiment que tu te prêtes de sympathie pour lui, quoi. C'est ça.
Ouais, ouais. Ok.
Et moi, je l'avais pas vu venir non plus du tout. Pareil, j'ai été en mode, what?
Ouais, c'est un peu violent, ouais. Et tu l'as, dans ta partie, ça a fait quoi, toi, Noah, tu te souviens?
Bah, moi, j'ai fait des choix corrects. Genre, non, ça tombe mal, putain, encore! Et, non, mais en fait, alors, tout le monde s'en est sorti dans ma partie. Et il y a un affrontement entre le mec du FBI et le tueur à l'origami bedonnant et irlandais de la cinquantaine. En haut de l'endroit où l'enfant va mourir. et je crois que le tueur à l'origami meurt dans la version que j'ai eue.
Bravo. Écoute, bravo. Et mais il faut savoir que
moi j'étais bien.
Je l'ai fait avec un ami qui est très très droit, tu vois. Genre lui, enfin, il aime la justice, il aime les choses droites. Et quand il a fallu savoir si on allait tuer le dealer, il était hors de question pour lui de faire un meurtre, quoi. On n'allait tuer personne. Mais même si c'était pour sauver notre fils, il fallait pas tuer les gens, quoi. Donc c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'indices à la fin.
Oui, mais vous avez épargné des
vies. On a épargné des vies sauf celle de fils, quoi.
Bon,
voilà.
Et ça t'a pas donné envie, genre, de le rejouer?
Bah si, bah si. Enfin, j'ai rejoué plusieurs fins. Il faut savoir que lui, il a 7 fins différentes, je crois. J'ai rejoué après en essayant d'avoir une fin un peu meilleure. Et ça a réussi, mais c'est vraiment la première qui compte.
Ouais.
En tout cas pour moi.
Ouais, c'est la première.
Mais non, ils ont des rejouabilités exceptionnelles, tu vois, parce que il y a 7 fins, mais après il y a des petites variations toujours intéressantes, quoi. Voilà.
Cool.
C'était l'histoire la plus déprimante. J'espère que vos histoires à vous sont bien plus fun. Hein.
Est-ce que t'as pleuré ou pas?
Non, j'étais trop choquée pour pleurer. C'était vraiment le dégoût. Mais je me souviendrai de nos regards. Enfin, tu vois, genre nos trucs, on était. Déprimée, c'est vraiment la déprime. Je pense qu'à ce moment-là, j'ai senti cette dépression qui est arrivée parce que notre dernière chance est morte. En plus, elle meurt d'une façon horrible. La journaliste, je crois qu'elle tombe. Tu vois, genre elle doit se casser le cou, un truc comme ça. Tu vois, ce petit crack caractéristique. Et ça se finit, ouais, sur le méchant qui part et c'est affreux. Non, c'est affreux.
Ouais.
Qui se sent de me remonter le moral après le film Heavy Rain?
Moi, le mien, c'est jamais autant pleuré dans un jeu. Donc,
Moi, je peux faire le mien alors. Moi, j'ai choisi Control, qui est un jeu de Remedy et qui est édité par 505 Games et qui est sorti en août 2019. Ouais, c'est ce que me dit Wikipédia. Super, merci l'onglet ouvert. Alors, petit disclaimer, hein, c'est un jeu un peu bordélique. Quand j'ai regardé des vidéos YouTube, il y avait marqué genre « It's a mess and a masterpiece okay. ». Et j'étais là genre « Ah ouais, ouais, c'est ça, effectivement ». Donc du coup, je vais essayer de raconter l'histoire, mais j'ai pas tout compris. Donc du coup, on va voir comment ça fonctionne. Donc, Control, c'est l'histoire de Jessie Faden. C'est une nana qui est à New York et on la voit rentrer dans un gros bâtiment très brutaliste avec des éléments très en béton, beaucoup de déprimes du parquet et des petits sièges un peu partout, mais surtout beaucoup de déprimes en béton. Et Jessie Faden, elle a une particularité en fait, c'est que il y a son petit frère qui a disparu, pas son fils hein, cette fois-ci, mais c'est son petit frère qui s'appelle Dylan, avec un prénom comme ça normal, moi aussi j'aurais disparu. En fait, elle rentre dans le bâtiment et tu sens qu'elle est en train de parler à une espèce d'entité plutôt. Et elle parle à l'intérieur d'elle-même. Elle se fait son petit monologue interne et elle fait genre « Oh, j'ai trouvé ce building, je suis enfin rentrée dedans. » Puis il y a des espèces de petites fractales qui apparaissent devant sa tête. Et puis elle est là genre « Oui, tu as bien raison, rentrons dans ce bâtiment. » Donc moi, j'étais là genre « Ah, ça va être sympa quand
même. » Elle a pas pris ses médicaments, quoi.
Mais je ne sais pas. Ou alors c'est peut-être un monologue mental qui est bien puissant, quoi. Et donc Jessie, voilà, elle rentre dans ce building et puis partout en fait il y a des gros macarons qui disent que c'est le Federal Bureau of Control, donc le FBC pour les intimes. Elle rentre dans ce truc-là. Elle s'attendait à être arrêtée par je sais pas un vigile peut-être qui dit ma petite dame qu'est-ce que vous faites là. Et en fait il y a genre juste personne. Il y a genre rien du tout etc. Donc t'avances un petit peu dans le FBC, tu progresses un petit peu, t'es là en mode genre il se passe à rien, et t'entends un petit bruit qui vient d'une très grosse porte. Alors du coup toi t'y vas évidemment en mode genre hop, personne pour m'arrêter. Tu ouvres la porte et comme toujours quand tu ouvres une porte et qu'on t'avait dit genre non faut pas y aller, tu trouves quelqu'un qui s'est suicidé. Ah chouette. Alors du coup genre tu regardes en fait parce que cette pièce ça a l'air d'être un énorme bureau et il y a marqué directeur en gros dessus. Et tu dis genre ah c'est sûrement le directeur du FBC, et donc le monsieur en fait il a l'air de s'être tiré une balle dans la tête, et à côté de lui il y a un gun qui est posé. Qu'est-ce que tu fais évidemment quand tu n'es pas policier ou civil et que tu viens de rentrer dans un endroit machin etc et tout? Eh ben tu ramasses le gun. Donc du coup JC elle ramasse le gun et erreur fatale puisque le gun commence à lui parler.
Ça m'arrive toujours.
Donc ouais.
Ça arrive souvent.
Ouais, bah pareil. Ouais, tout le temps je ramasse une tasse et elle me dit bonjour et ça m'inquiète. Et donc du coup bah alors JC elle discute un peu avec le gun, elle discute un peu à l'intérieur d'elle-même, elle discute avec l'entité en fractal, et on apprend en fait que elle est rentrée dans ce bâtiment parce que voilà, elle cherche son frère Dylan qui a disparu il y a 17 ans à la suite d'événements paranormaux qui s'étaient passés dans sa ville de naissance qui s'appelle Ordinary dans le Wisconsin. Et donc du coup en discutant avec le gun lui dit ah il faut que tu sois digne de mon pouvoir, et en fait elle est téléportée dans un plan astral qui est très joli. Ouais, c'est le bordel. dans un plan astral qui est très joli. Et là, en fait, il y a plein de voix qui se mettent à lui parler et qui lui disent genre « Ah, on est le comité ». Et le comité lui dit « Bah voilà, utilise l'arme dans le plan astral et du coup, l'arme sera liée à toi ». Donc du coup, tu passes l'épreuve du plan astral, t'as l'arme qui est liée à toi. Et du coup, le comité te dit « Ah bah c'est vachement chouette puisque du coup, maintenant, tu es la nouvelle directrice du FBC ». Donc toi t'es là genre ah bah merde, pourtant je fais un job qui demande beaucoup de travail, enfin genre j'ai pas prévenu mes parents, genre qui va s'occuper de mon chat, mais non ça balèque, c'est bon, t'es la directrice du FBC. Donc du coup première tâche qui t'est assignée en tant que directrice du FBC, c'est donc déjà de sortir du bureau du directeur, et là tu te retrouves face à une entité qui est genre un peu toute recroquevillée comme ça dans tous les sens et qui est genre toute rouge. Qui t'attaque. Et toi, t'es là genre, bah non. Donc, du coup, tu prends ton arme de service, tu tires sur la personne, elle explose, t'es là genre, ah ouais, quand même. Et continues ton petit trajet en te disant, bah c'est bizarre quand même. Parce que au fur et à mesure que tu progresses dans l'ancienne maison, tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes qui ont l'air d'être possédées par quelque chose, sauf que ces personnes, elles flottent. Et ça, pareil, c'est le bordel. Donc du coup, les gens, ils flottent en récitant des petites incantations, et t'es là genre, ah oui, quand même.
Bonne ambiance.
Donc tu progresses. Ouais, non, mais c'est insupportable. Donc du coup, tu progresses encore dans l'ancienne maison, t'arrives à peu près au niveau du bureau de l'exécutif, et là, tu vas rencontrer une nouvelle personne qui est un peu chouette parce que elle a comme principale qualité de ne pas être possédée. Et elle te dit bon bah voilà, je m'appelle Emily Pope, je suis l'assistante du professeur Darling, je ne suis pas possédée parce que je porte un je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est genre une espèce de veste comme ça avec un gros rond au milieu qui la protège de ce truc là et elle te dit bon bah voilà, en fait il y a une entité qui n'est pas de notre monde, qui est d'un univers parallèle, qui est en train d'envahir le bureau. Le nom officiel du bureau, c'est ce qu'on appelle l'ancienne maison, dit en anglais c'est the oldest house. Et donc du coup, on est dans le bureau est dans les locaux de l'ancienne maison, et l'ancienne maison est en train d'être envahie par une entité qui s'appelle le Hiss. Donc H-I-2-S.
C'est la Hiss.
Le Hiss. C'est la Hiss. Et donc du coup, bah toi t'es là genre ah oh, bon bah d'accord, bah c'est génial. Moi je cherchais juste mon frère, donc du coup t'es là genre ah oh, est-ce que vous avez vu Dylan? Et les gens te disent t'as pas plus important à faire, c'était la journée, bon d'accord. Donc du coup, tu continues en fait un peu ton trajet, et tu discutes d'autant plus avec l'entité en fractal qui est devant ta tête, qui s'appelle Polaris. Et Polaris, en fait, elle a l'air d'être plutôt bienveillante envers toi, elle est à l'intérieur de toi, elle discute avec toi, et t'apprends en fait que Polaris, elle aussi, elle, c'est lié à toi. Quand il y a eu cet événement paranormal à Ordinary, il y a 17 ans, il y a eu un truc super bizarre dans la ville qui a tué littéralement tout le monde. Polaris t'a trouvé et elle s'est attachée à toi. On a enlevé ton frère et toi, t'es resté un peu comme de ronflant, en mode genre, bon, bah voilà, j'ai plus qu'à rentrer au lycée. Et donc, du coup...
Le lycée vide.
Au lycée vide, ouais, c'est ça. Non, mais ça va, mais c'est comme dans les petites villes, tu sais, le lycée, il est à 20 minutes de bus, quoi. Pénible. Et donc du coup en fait on te dit bon bah voilà, il y a une personne qui était genre vraiment responsable de tout et qui était en étroit lien avec le directeur, et c'était ce fameux professeur Darling, Casper de son prénom. Je sais pas ce qui s'est passé avec Remedy et le choix des
Casper
prénoms.
Casper Darling.
Mais ouais, il s'appelle Casper. Ouais, Casper Darling.
Ça va être chiant pour le trouver s'il est invisible et tout.
Non, il est pas invisible, Casper. Bref. Et donc, du coup, Jaycee, en fait, elle va progresser au fur et à mesure encore dans l'ancienne maison pour essayer d'aller trouver Casper, enfin, Monsieur Darling, Docteur Darling. Et il va lui arriver, genre, un fatras de trucs bordéliques. En particulier, elle va trouver donc un téléphone rouge qui s'appelle la hotline. Et la hotline, ça lui permet de discuter avec le comité qui va lui donner des ordres en disant genre va dans cette direction, va dans ce truc-là, etc. Et pourquoi cet objet-là lui permet de discuter avec le comité ? Parce que c'est un objet de pouvoir. En fait, ce qu'on apprend assez rapidement, c'est que The Oldest House, c'est un point de résonance et de synchronicité avec plein d'univers un peu parallèles, et que donc du coup assez régulièrement dans cette baraque là, enfin dans cet énorme building, il y a donc des objets de pouvoir, donc des objets en fait qui sont possédés par d'autres trucs, et il y a des objets autres qui vont donner des particularités de puissance aux gens qui les touchent. Donc du coup voilà, tu téléphones au comité avec la hotline, tu passes un peu de département en département. Alors les départements ont des noms un peu rigolos, il y a le département des chances et probabilités, le département de la nostalgie. Il y a plein de départements un peu genre bordéliques comme ça. Et entre les départements, il y a un hôtel, un motel même, qui s'appelle l'Ocean View Motel, qui est juste un long couloir. Et en fait, en gros, des fois, t'as genre une petite tirette de lumière. Donc du coup, tu cliques sur la tirette, ça te téléporte dans l'Ocean View Motel. Et du coup, t'es là, genre, tu traverses l'Ocean View Motel et en fait, tu te retrouves dans un autre département. Et c'est pour ça d'ailleurs que partout dans le jeu, il y a des petits posters qui disent genre « Se perdre dans le bâtiment ne compte pas comme des heures supplémentaires ». Ou des choses comme ça, voilà. C'est ça, c'est le bordel. C'est vraiment, c'est genre vraiment la catastrophe.
Tu m'étonnes que les gens qui travaillent là préfèrent être suspendus
dans le vide.
Préfèrent être possédés.
Oui, parce que j'ai oublié aussi, du coup, en fait, la Oldest House, elle est vivante à sa manière. Donc, en fait, elle change de forme. Elle va changer de forme assez régulièrement. Tu vas voir les murs qui vont se contracter, se décontracter. Tu vas voir le plafond qui baisse, qui se lève. Des trucs qui partent en diagonale dans tous les sens. Des fois, tu rentres dans une pièce et genre tout ce qui est bureau et chaise en fait c'est collé sur le mur de droite. Enfin c'est le bordel comme ça. Donc vraiment c'était vraiment en mode genre la maison qui change de place ne compte pas comme des heures supplémentaires. Ou genre ne ramenez pas cette agrafeuse chez vous. Peut-être que c'est un objet de pouvoir. Enfin plein d'affiches très drôles comme ça. Donc du coup on continue un peu notre petit trajet au milieu des gens affectés par le IS. On leur tire dessus, ils nous tirent dessus, on meurt parce qu'en plus le jeu il est super difficile, et on finit en fait par découvrir une personne capitale pour la Oldest House, qui n'est pas Casper Darling mais qui est Attie, le concierge. Alors le concierge, eh ben il se dit bon bah du coup tu vas être mon assistante, et on va comprendre, et il t'envoie voilà faire encore des autres trucs un peu partout. Donc tu vas rétablir du courant dans une centrale électrique, tu vas nettoyer une partie de l'ancienne maison, tu vas rencontrer plein d'autres survivants en chemin qui sont là en mode genre « Ah mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ?» Tu leur donnes des vestes anti-IS. Donc du coup, ils rejoignent Emily Pope dans l'exécutif central. Et tu vas surtout apprendre que ton petit frère, Dylan, il est retenu dans la Oldest House, dans un truc qui porte encore un nom à dormir dehors, le Panopticon. Ouais, j'ai pris des notes. Panopticon. Voilà. Donc du coup, bah tu vas vers le Panopticon, évidemment, tu te dis genre, oh mon Dieu, je vais retrouver mon frère, moment intense. Non, évidemment, il s'est enfui. Donc du coup, bah tu recours derrière le truc, et en fait, tu te rends compte que Dylan s'est rendu à l'exécutif central, à Emily Pope, et qu'il a fait, c'est bon, je me rends, faites ce que vous voulez. Donc toi, t'es là, genre, ah ouais, c'est génial, j'ai perdu 10 heures de jeu pour trouver un mec qui s'est rendu tout seul, mais c'est pas grave, tu rages dans ton coin. Là, tu mets le jeu en pause, tu te dis, qu'est-ce qui se passe? Tu prends 3-4 mois pour arrêter. Et après, tu y reviens. Ou tu fais comme Laure, qui a ragé.
Ah ouais, je l'ai même pas retrouvé, le frère, hein, franchement.
Et donc, du coup, tu découvres que Dylan, en fait, il a été corrompu par le Is, même s'il a encore une partie de sa personnalité, et qu'il est plutôt amical, mais il récite quand même du latin à l'envers. Et bof.
Ça fait bader, quoi.
C'est ça, vraiment, bof. C'est ça, il a les yeux révulsés, il est en haut, et puis il récite du latin ou du grec. Enfin, je sais pas, je suis pas latiniste, hein, mais
c'est
ça m'a pas l'air
frère,
français,
quand
quoi.
Même. Les liens de la famille avant.
Oui. Oui, c'est ça. Celui-là, on va pas le noyer. Et donc du coup il nous dit fais pas confiance à Polaris, donc l'entité fractale qui est à l'intérieur de nous, elle est chelou, lui fais pas confiance. Donc, toi t'es là genre bah oui mais je te connais depuis 3 minutes et elle je la connais depuis 17 ans. Donc voilà. Et donc en fait Dylan te dit que il a accepté le Is à l'intérieur de lui parce que il en avait ras-le-bol d'être sollicité et d'être oppressé par le bureau et le fameux professeur Darling. Pourquoi? Parce qu'en fait au moment de l'événement à Ordinary, donc il y a 17 ans encore une fois, donc le Fédéral Bureau est arrivé et il a enlevé le frère et il a décidé de l'utiliser pour faire des tests parce que ils se sont dit ce type-là il a résisté à cet événement-là et du coup on va en faire un sujet test pour devenir le prochain directeur. Donc du coup c'est pour ça qu'il s'appelle P7, donc projet numéro 7, et qu'il était enfermé dans le bureau parce qu'il devait devenir le prochain directeur. Ce qu'on apprend aussi c'est que au fur et à mesure, au début ça se passait bien, puis au fur et à mesure il a commencé à en avoir un peu marre et avoir ses propres opinions à rapport au fait que c'était plus un enfant. Et il a dit fuck, et genre, bah, quand t'es dans une société un peu super secrète, machin, et bah, apparemment, quand tu dis fuck, on te met dans un panopticon. Ou un panopticon, voilà. Donc, du coup, Jess, elle se dit, bah, allons-y gaiement, je vais aller voir le département des programmes des candidats principaux. Et je vais aller voir ce qui s'est passé pendant que il était pas là et je vais le laisser réciter son latin. Donc tu fais pas de pattes, tu touches d'autres objets de pouvoir en passant, ce qui fait que tu récoltes des pouvoirs. Donc là déjà tu pouvais envoyer une espèce de dash d'air vers les ennemis, tu pouvais faire un bouclier en arrachant des trucs des murs dans tous les sens. Ouais, c'est surtout ça en fait, tu fais de la télékinésie, t'arraches des trucs et tu les balances dans la gueule des gens, c'est assez rigolo. Ça fait une sacrée facture au niveau de la rénovation de l'immeuble, mais est-ce vraiment ton problème? Donc voilà, tu défonces tous les trucs, bah, t'arrives.
C'est un directeur quand même.
Bah oui, c'est ça. Bah oui, j'imaginais. Puis Emily Pope, tu sais, qui fait genre. Alors, Madame Faiden, par contre, pour les 3 tonnes de béton que vous avez arraché des murs,
oh, c'est pas
pour
grave.
La télékinésie, bah, je m'en fous. Passez-le sur ma note de frais. Prenez la carte.
C'est le contribuable qui paye de toute façon. Hein. Vous êtes agence fédérale.
Ah, c'est ça. Donc du coup, on arrive dans le département du candidat principal, du prime candidate, et tu réalises en lisant des petits documents du professeur Darling, parce que ce type écrit énormément et il s'enregistre en train de parler aussi. Très souvent, on a des projecteurs et il est en train de discuter en mode genre oh, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Il se renverse une tasse de café et il explique donc du coup que genre en parallèle d'avoir enlevé Dylan et de l'avoir utilisé pour devenir un futur candidat, JC, elle aussi, elle était monitorée et elle était appelé à l'intérieur comme le prime candidate numéro 8. Et donc, du coup, en fait, il faisait aussi attention à elle, parce que si Dylan faillait, ils allaient l'appeler elle pour qu'elle devienne la future directrice. Du coup, JC, qui est particulièrement pas expressive, se fait « Ah ». Non, mais vraiment, des fois, elle est là en mode genre « Ah !» Vraiment, des fois, genre, il se passe des trucs de ouf. Et elle est là. Ouais, c'est
Denis
ça.
Brogniard. Ah.
C'est ça, vraiment. Ah. Ouais, non, mais tu vois, même pas Denis Brogniard, même pas l'once de surprise. Elle est là, genre, oh, je ne m'en serais pas douté. Okay. Puis elle recontinue son trajet. Et donc, du coup, en continuant ce trajet-là, etc., elle se dit, bon, bah, elle réalise en fait qu'il y a dans le bureau une représentation d'Ordinary, donc sa ville de naissance complète. Genre avec tous les petits bâtiments, machin. Donc elle y va pour voir si elle peut en apprendre un peu plus là-dessus. Et c'est là en fait qu'on a la grande révélation de qu'est-ce qui s'est passé à Ordinary. Donc en fait, les enfants Faiden, donc JC et Dylan, étaient en train de jouer manifestement dans la décharge hein, pour trouver ce genre de truc. Ils trouvent un projecteur, mais pas un projecteur où on met le USB dessus, mais les vieux projecteurs qu'on avait en classe où il faut mettre des petites slides à l'intérieur. Et bah du coup ils allument le projecteur, ils mettent les petits slides à l'intérieur. En fait, il s'avère que les slides elles ouvrent des portes vers des mondes extérieurs. Donc les enfants, bah comme ils ont aucune notion de la sécurité, bah ils rentrent dans les diapositives, dans les slides, puis ils explorent un petit peu, machin, etc. Et c'est là en particulier qu'en fait JC elle va rencontrer Polaris qui était dans une des slides. Il y en a une autre en particulier de slides, on n'a pas son numéro, mais ils vont mettre dedans et en fait ils vont rencontrer une entité qui est vachement hostile parce qu'elle s'appelle Pas la Mère et en fait elle va corrompre les enfants et elle va genre faire disparaître l'intégralité de tous les adultes d'Ordinary. Donc du coup, ils essayent d'éteindre le projecteur en galérant, en mode machin, etc. Ils n'y arrivent pas. Donc Jessie, en fait, elle prend la décision d'enlever la diapositive où il y a genre pas la mer. Mais c'est trop tard. De toute façon, tout a explosé dans tous les sens. Elle remet la diapositive qui est numéro 36, celle où se trouve Polaris. Et tout le reste, elle va le brûler. Allez hop, ciao, ciao les blaireaux, on brûle tout. Évidemment, ça n'a pas échappé au FPC qui débarque, très satisfait de la situation, moyen satisfait, mais en tout cas, ils ont trouvé un truc, donc ils sont contents. Ils laissent Jessie sur le côté sans ses parents et avec des enfants corrompus, et hop, ils récupèrent Dylan, et puis ciao, bonsoir. Et là, en fait, le FPC va se mettre à étudier de ouf le projecteur, parce que c'est un des objets de pouvoir les plus puissants qu'ils ont pu voir jusque-là, et qui, en fait, jusque-là, où genre les objets de pouvoir, c'est des petite itération d'un autre univers qui est arrivé dans un petit objet, machin, etc. Quoique c'est pas toujours un petit objet, parce que par exemple, on a une mission où on doit sauver quelqu'un d'un frigo, parce qu'en fait, c'est un frigo qui est corrompu, et en fait, quand tu le regardes plus, il se téléporte. Et donc, du coup, il y a quelqu'un qui est assigné à rester devant le frigo, comme ça, à regarder le frigo. Et sauf qu'en fait, ce pauvre monsieur, bah, son shift a débuté, puis le IS a envahi la vieille maison. Donc, quand tu tombes dessus, ça fait 24 heures qu'il a les yeux ouverts à regarder le frigo. Et donc du coup tu vas pour le sauver et en fait quand t'ouvres la porte tu le distrais, il détourne les yeux et le frigo le mange. Voilà.
Ah putain.
Ouais, c'est ça.
Tu veux vraiment de la merde.
Ouais, non, c'est ça, mais on sert à rien. Il y a aussi genre un bateau canard géant qui coule et qui noie ses occupants. Il y a une guitare qui fait que tu peux plus t'arrêter de jouer. Il y a plein d'objets altérés vraiment en bordel, mais le projecteur en lui-même, lui, il ouvre une porte carrément. Il y a pas de doute, c'est bien ouvert. Et donc du coup ils vont étudier ça à fond et dans la diapositive 36 en plus de Polaris qui elle de toute façon est déjà partie puisqu'elle est avec Jessie, ils vont trouver Edron et non pas Edredon. Ouais, des fois mes blagues elles sont bref. Ils trouvent
ça aussi on coupe beaucoup au montage.
Ah ouais, on coupe au montage du ouf. Et donc du coup ils vont trouver Edron qui est genre une énorme, enfin c'est immense en fait, ça fait la taille d'un édredon, mais d'un gros édredon pour survivre à l'hiver. Donc, il fait environ 20 mètres de haut pour facile 15 mètres de large. Et c'est un hexagone, quoi. Vraiment gris, très simple. Donc, ils le sortent de la diapositive, ils le mettent dans l'ancienne maison. Et puis, Darlene se met à discuter avec Edron de manière, très convaincue. C'est même grâce à Edron qu'il y a ces vestes de protection dont je vous avais parlé, parce que c'est les Edron Résistance Amplifier, donc les HRA. Et donc du coup Edron il était même là, il avait même dit à Darling attention il y a le Hiss qui va attaquer. Donc du coup toi t'es là en mode genre bon bah ok allons voir Edron. Tu vas essayer de chercher en fait le projecteur qui est dans une zone en particulier et tu vas retomber sur concierge qui va te donner un objet qui va te permettre de faire des trucs etc à la chaîne et tu arrives assez rapidement dans le meilleur passage du jeu qui est le labyrinthe du cendrier, qui est genre oufissime. En gros, tu rentres dans le truc, et je vais pas trop spoiler ça parce que ça vaut le coup d'aller le voir sur YouTube même aussi. Et genre, le labyrinthe du cendrier, en fait, tu rentres dans le truc, il y a une musique super cool qui se déclenche, et tu pars en fait dans la oldest house qui est en train de glitcher dans tous les sens. Il y a des trucs qui se lèvent, qui partent, des portes qui se dédoublent, il y a le hiss qui t'attaque en même temps, t'es quasiment immortel, tu défonces tout.
Ah, j'allais te demander si tu peux mourir, mais ok, non.
Là, tu peux mourir, mais c'est con de mourir quand même dans cette partie-là. Je pense qu'ils ont baissé la difficulté. Parce que c'est vraiment trop cool.
Okay.
C'est genre la définition de trop trop cool. Je pense qu'ils ont baissé la difficulté pour ce truc-là. Je suis sûre que même Laure qui a détesté le jeu a aimé cette partie-là.
Je suis pas allée jusqu'à cette partie-là, moi.
Ah merde.
J'ai laissé tomber.
Et en fait, le labyrinthe du cendrier, ça permet d'accéder à Edron. Tu retrouves Edron, tu fais genre « Ah, mon copain, machin !» Et en fait, le Hiss t'a suivi. Le Hiss attaque Edron. Tu découvres en fait que Polaris comme ils viennent de et Edron, comme ils viennent de la même diapositive, ils sont liés. Le Hiss défonce la gueule de Edron. Polaris meurt. Et fin du jeu.
Oh.
Ok, tu crois. Ah ah, c'est bientôt fini.
Ah.
Et en fait, du coup, bam, générique. Voilà, toi, t'es là genre, ah, t'es là genre, ah, j'ai l'impression d'être dans un Quantic Dream. Et le générique défile, et puis le générique se met à glitcher de ouf dans tous les sens. C'était là genre, ah non, c'est bon, il reste du jeu, je suis trop content. Et en fait, tu te retrouves dans une nouvelle séquence du jeu où t'es juste une bureaucrate en fait du FBC, donc t'as ta petite tenue, ta petite chemise blanche, ton petit pantalon noir, et puis on te dit genre ah bah ramasse les tasses de café, t'es plutôt une stagiaire en fait. Ramasse les tasses de café, envoie les mails, machin. Et en fait donc du coup genre ta mission, c'est d'aller apporter un mail au directeur. Donc, tu vas apporter un mail au directeur, tu poses le truc et boum, tu rebootes et t'es encore au même endroit. Sauf que cette fois, il y a des gens qui ont l'air de flotter, mais pas tous, mais personne s'en rend compte. Donc, du coup, tu recommences la boucle temporelle plusieurs fois et t'es là en mode genre « Ah, ce serait bien que ça se termine. » Et surtout, en fait, t'as des visions genre qui sont hyper, hyper agressives du Is, de Dylan, de l'ancien directeur. Et en fait, le seul moyen que t'arrives à trouver, en fait, c'est qu'il y a Ati, donc le concierge, qui, je pense, est une entité aussi surdimensionnelle. Parce que lui, il a pas l'air de... Il sait très bien qu'il est dans une boucle temporelle. Il sait très bien qu'il est en même temps dans The Oldest House. Et il te dit genre « Non, mais il faut que tu résistes. Il faut que tu retrouves Polaris, donc du coup tu retrouves Polaris assez rapidement, tu résistes au Is, et là en fait t'as une dernière révélation de pourquoi le Is est là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'ancien directeur, il était tranquille dans son petit bureau et il a vu que Darling et Edron discutaient énormément. Et que les recherches du Bureau of Control n'allaient pas vraiment dans la direction qui lui plaisait, et il s'est dit mais en fait Edron est en train de posséder tout le monde. Et c'est vraiment catastrophique, parce qu'en fait on est censé être une entité qui est neutre, et en fait Edron est en train de tous nous influencer. Et le directeur, lui, quand il a été à Ordinary, il a trouvé une autre des slides du projecteur un peu brûlée, mais il l'avait gardée pour lui un peu secrètement. Et en fait, il a été se rendre au niveau du projecteur, il a mis la slide à l'intérieur, et à l'intérieur il y avait le Is. Et il était là, le Is va tout résoudre, et ça va être génial. On ne sait pas pourquoi il se suicide, est-ce que c'est la culpabilité, ou est-ce que c'est encore une histoire de boucle temporelle, mais en tout cas, cette décision va le tuer, cette décision va tuer genre l'intégralité du bureau ou tous les gens qui n'avaient pas la protection, et va faire venir la nouvelle directrice, Jessie. Donc maintenant que tu sais ça, en fait, tu vas rentrer dans la diapositive, aller défoncer le Is et Dylan directement dedans, et tu vas aller couper la source d'énergie de l'intérieur, faisant que le Is disparaît d'un coup du FBC. Tu ressors ton frère de la diapositive, il est dans le coma. T'es là genre, bon, bah voilà, mon frère est dans le coma, et puis je suis la nouvelle directrice du FBC. Et le jeu se termine là-dessus.
Non.
Voilà. Et j'ai beaucoup aimé.
Mais pas encore une autre... Ça reprend pas
non,
encore une
autre... Non, mais il y a des DLC après. Mais ça l'a fait.
Ah. Et il y a une suite aussi en préparation, j'ai vu.
Oui, il y a le 2 qui a été annoncé par Remedy.
Ok.
Je crois, je regarde en même temps. Control 2.
Hypé par une potentielle suite ou pas?
Ouais, carrément. J'ai adoré ce jeu. En fait, il m'a marqué. Et genre, déjà, il était très très beau. Il y avait des soirs où j'étais là dans mon lit et ça me faisait physiquement mal de pas pouvoir vivre dans un univers brutaliste comme ça, entouré de béton. Et j'étais là, genre, je regardais les briques rouges de l'île et j'étais là, oh, vous êtes laide. Et j'étais agacée partout. Et en fait, il a reçu énormément de prix, je crois, pour l'inventivité de son level design. Mmh. Parce qu'un des pouvoirs que tu vas avoir à un moment, c'est que tu te mets à léviter, pouvoir en fait voler. Donc là, en fait, t'arrives à avoir de tout, en fait, des éléments, en fait, du level design qui étaient cachés jusque là t'apparaissent, parce que tu peux tout explorer vraiment en profondeur. Les objets altérés, ils sont vraiment cool, il y a vraiment des combats qui sont super chouettes. Personnellement, j'aime bien aussi tout ce qui est genre histoire de dimensions parallèles et de trucs un peu bordéliques comme ça. J'ai eu du mal à me mettre dedans parce que je pense que l'histoire est un peu brouillon en elle-même, mais en fait là, il y a vraiment un fatras de missions secondaires en toute occasion qui sont genre soit hyper drôles comme ce mec avec le frigo, soit hyper tragiques parce que t'essayes de sauver des gens et ça marche pas, soit genre complètement what the fuck parce que genre il y a une des missions, c'est de trouver donc vous savez, il y a des au Japon, il y a des petits chats qui s'appellent des mannequins neko qui font comme ça avec la patte,
ouais.
Et en fait il y en a 5-6 qui sont planqués dans tout le jeu, et en fait faut leur courir après parce qu'ils se téléportent en te faisant au revoir, et toi tu leur cours après. Donc enfin, c'est genre, il y a vraiment, ils ont mis toutes leurs idées un peu bordéliques là-dedans, et voilà, les personnages sont chouettes, il est vraiment beau, mais ça je l'ai déjà dit, le level design est ouf, et ouais, j'étais genre, quand j'y jouais, j'étais en mode genre vraiment transportée dans quelque chose qui était différent, et il y a pas trop d'autres jeux comme ça. Donc j'étais en mode genre ah, et quand il s'est terminé, j'étais triste. J'étais en mode genre je me sentais vide, voilà.
C'est d'ailleurs pas un jeu que t'as racheté sur PS5, ça?
Chut.
Ouais, parce qu'il a été adapté.
Ouais,
hein.
C'est ça. Il a eu un lissage. Mm-hmm. Sur PS5, il est bien. Ouais. Sur ma PS4, j'ai une PS4 fat, la toute première. Et quand j'ouvrais le menu, j'avais 3-4 secondes de latence. T'appuies sur le menu pour changer d'arme et t'es là, genre bon. Ah, c'est bon. Mais ouais, sur PS5, il est fluide maintenant. Mais je l'ai tellement aimé que je l'ai fait sur une PS4 qui laguait.
Dedication.
Oui, c'est ça, dedication.
Trop cool. J'ai l'impression que, en écoutant l'histoire comme ça, il y a beaucoup d'infos. J'ai du mal à me repérer dans les persos et tout. C'était le cas en juin aussi ou c'est...
C'était le bordel. Et alors, dis-toi, là, que ce que je vous ai dit, c'est genre, j'ai pris, mais genre, 4 pages de notes, hein. Ouais, c'est le bordel. C'est vraiment le bordel. Après, ils ont des chara-design qui sont très différents.
Okay.
Mais des fois, dans l'histoire, tu sais pas du tout où tu vas, en fait. Heureusement qu'il y a une map qui est bien foutue. Et heureusement que, genre, le système de mission est bien foutu. Mm. Je vois Laure qui a baissé les yeux en mode, moi, j'ai rien. Non. Ouais, et genre, il y a une map qui te dit vraiment où aller parce que des fois, tu comprends rien.
Okay.
Genre, heureusement qu'ils ont foutu une map. Et genre, un récap des missions parce que sinon, genre, tu te perds dans le truc. Mm.
Cool. À Yann de nous raconter son petit jeu.
Yep.
Oui.
Moi, j'ai vraiment 4 pages de notes.
Ah.
Alors. non, c'est pas vrai. Il n'y a pas, il y a zéro note. Je regardais juste, je me suis juste noté les races pour être sûr de m'y retrouver. Mais non, moi, je vais vous parler de Breath of the Wild, donc Zelda.
Oui.
Pour introduire ça, déjà, il faut savoir que je pense que, alors c'est tout ça, c'est théorique et il y a beaucoup de gens, enfin, peu de gens chez Nintendo, en fait, en ont vraiment parlé, mais, ils ont créé une timeline de Zelda pour que toutes les histoires aient une certaine continuité. Mais de base, je pense qu'ils partaient pas là-dessus. C'est au fur et à mesure, en fait, de leurs histoires où ils ont vu que, les histoires plaisaient autant que, genre, le gameplay, qu'ils ont fini par se dire, ah, peut-être qu'on devrait faire quelque chose de un peu plus continu. Donc, pour patcher ça, Link, c'est 007. En fait, on s'en fout la tête qu'il a. C'est agent 007. Donc, en fait, c'est le héros. Il s'appellera toujours Link. Et pour patcher Zelda, en fait, tout le royaume a décidé d'appeler toutes les princesses Zelda. Donc, voilà. Là, c'est leur moyen de patcher le... Pourquoi on les appelle toujours Zelda et Link, mais c'est des histoires complètement discontinues. Bon, voilà pourquoi.
Pratique.
Ouais, pratique du coup.
Donc du coup tout le lore est lissé comme ça où il y a vraiment toutes les histoires elles vont aller entre elles quoi.
Plus ou moins en fait les toutes premières honnêtement ils ont essayé un peu de les relier mais c'est vraiment genre c'est tout ce que c'est pas trop le cas. Mais le Zelda qui est à la base de toutes les histoires, la façon dont ils ont réparti, c'est Ocarina of Time.
Mon préféré.
En fait dans Ocarina of Time, il y a tout ce truc où il va dans le futur, il retourne dans le passé. Et en fait tout ça pour eux ça a créé des timelines. Et donc, à partir de ça, en fait, il y a 3 timelines majeures. Et c'est de là, en fait, d'où découle, tu as Link Cartoon, par exemple, qui serait genre une timeline, où, en fait, Link s'est juste barré et a voyagé. Et donc là, ça, c'est Link Cartoon. Il y en a une où Link a perdu, et donc c'est un peu genre hyper dark, et puis tout se passe mal. Et ça, c'est plutôt les anciens jeux, les très anciens. Et après, il y a celle du milieu où on a, c'est ça, enfin, l'histoire de Ocarina of Time, et d'autres après. Et en fait, quand, Breath of the Wild est sorti. Techniquement, ça faisait un peu partie de tout. Donc, les gens savaient pas trop comment le placer. Et en fait, sur le site officiel, eux, ils ont tranquillement mis ça à part. Ils ont juste dit, pour l'instant, on sait pas où c'est, tu vois.
D'accord.
Il y a beaucoup de théories comme quoi ils ont fait ça parce qu'en fait, la suite, Breath of the Wild 2, ils l'avaient déjà pensé. Et en fait, s'ils disent où est-ce que c'est, ça peut potentiellement spoiler un peu le 2, enfin, etc. Mais bref.
Donc, pour l'instant, on sait pas où il est.
Breath of the Wild, non, ouais, toujours pas. Okay. Non. Il y a des idées, mais c'est je pense qu'avec le 2 déjà on verra un peu plus clair. Mais c'est sûr que leur stratégie elle a quand même beaucoup changé parce que déjà il y a un 2 dans Zelda, c'est normalement Zelda a souvent pas de 2 de partie 2 quoi. Donc c'est là où c'est intéressant et c'est pour ça que Breath of the Wild l'histoire elle est genre beaucoup plus construite que tous les autres Zelda, même si Ocarina of Time comme j'ai dit c'était quand même genre bien fait, mais là c'est vraiment il y a tout un lore sur la carte. Je vais pas en parler parce que ça a pas un grand intérêt dans l'histoire, mais il y a une race qui s'appelle les Zonai, qui seraient en fait des anciens barbares. Et eux, en fait, t'as leur histoire que à travers des écritures sur des ruines.
Ah, trop bien.
Mais tu sais qu'ils étaient omniprésents sur la carte et du coup, parfois, il y a certaines références à eux. Donc, tu sais qu'ils ont eu un impact, mais tu les connais pas, en fait. Et c'est une race, de toute façon, qu'on voit pas dans les Zelda. Donc, ils ont vraiment fait tout un lore sur Breath of the Wild, en tout cas, qui moi, en tout cas, après avoir joué, j'ai commencé à me dire, oh, mais moi, je veux la suite. Et en fait, c'est là où, genre, tu tombes dans toutes les vidéos théories de machin, de trucs. Et,
ah oui, on connaît bien. Qui
t'explique un truc. Il y a un livre, en plus. Genre, ils ont créé un livre Nintendo, genre, sur, genre, toutes les histoires, un peu. Pour que les gens puissent se replacer, etc.
Ah,
donc voilà. Et après, en termes de, genre, méchants, un peu pareil que Zelda et Link, t'as Ganon, qui est donc l'esprit du mal. Et en fait, Ganondorf, lui, c'est le mal incarné, un peu. Genre, en un personnage.
Ok.
Ganondorf qui appartient aussi à la tribu en fait des Gerudo et donc ça on va y venir plus tard mais c'est une des tribus qui est importante. Je sais pas si on dit tribu ou race. Honnêtement, je veux dire tribu dans le doute. mais en même temps, ils sont tellement différents que ça doit être des races, mais bon. Donc voilà. Donc tu commences au tout début. En fait, tu te réveilles, t'es Link, t'es dans un endroit qui fait très technologique. Donc ça aussi très nouveau dans Zelda, parce que normalement t'as ton épée, t'as ton bouclier et puis c'est parti. Là, en fait, t'es dans un sanctuaire Sheikah. Donc les Sheikah aussi, c'est une race qui était très très avancée, un peu comparable à les anciens dans Stargate.
Oui.
Parfois ils parlent des anciens. Et tu vois, il y a des technologies de malades. Et ben là, c'est un peu ça. Tu vois, lui, il récupère une tablette qui ressemble un peu à son iPhone, quoi. Et grâce à son iPhone, il va pouvoir activer plein de trucs des Sheikah qu'ils avaient laissé là avant. Donc il se réveille et il va rencontrer, en fait, en sortant, il rencontre le roi de Hyrule. Le roi va lui dire, ouais, ça fait 100 ans que t'es en train de dormir. Mais maintenant le monde a besoin de toi, donc il va falloir que tu sauves un peu la princesse. Et donc au loin tu vois le château avec tu sais, genre tu vois un peu genre l'esprit de Ganon autour qui rôde, et tu sais que tu vois, le boss final il est là-bas. D'ailleurs, ce qui est cool dans Zelda Breath of the Wild, c'est que en fait c'est un open world, mais vraiment open world, t'es pas guidé, c'est pas tunnel, et donc si tu veux aller au château directement, tu peux y aller. Tu vas te faire défoncer, mais tu peux y aller. Il y a juste les speedrunners qui se font pas défoncer, mais ça c'est parce que bon, voilà.
Ils ont un autre talent.
Les timings parfaits. Ouais. Mais voilà. Et donc en fait, le roi un peu t'explique toutes les bases, et à la fin en fait, il disparaît parce qu'en fait, c'est le fantôme du roi, parce que lui, il est mort il y a 100 ans. Oh. Donc déjà, il est là en mode bon, allez, il va sauver ma fille et ciao. Donc voilà, donc t'as ton petit personnage. Et en fait, l'histoire est faite que tu choisis dans quel ordre tu veux le faire. Mais le but, c'est d'aller chercher les quatre héros des quatre différentes races tribus qui vont t'aider à diminuer la puissance de Ganon. Et grâce à ça, tu vas pouvoir aller dans le château. Et bon, à travers, de toute façon, tes différentes aventures, tu seras aussi genre mieux stuffé, tu auras juste tes meilleures armes, etc. Donc, tu seras prêt à y aller. Donc, moi, personnellement, j'ai commencé par galérer, en fait, à trouver genre le premier. Parce que tu peux grimper tout dans ce jeu. Donc moi, je me suis dit, ça se trouve, faut juste que je grimpe une montagne. Donc j'avais pas assez d'énergie, je suis allé récolter l'énergie, j'arrivais pas à grimper la montagne parce qu'il pleuvait, donc ça glissait. Enfin, en fait, je me suis coincé tout seul. Et en fait, il s'avère que il fallait d'abord parler à un mec qui donnait une cape, et avec ça, tu pouvais remonter toutes les cascades.
Ah putain.
Et donc, évidemment, une cascade, ça permet de grimper beaucoup plus haut, beaucoup plus facilement. Sauf que j'ai mis un temps fou à m'en rendre compte, et j'ai essayé de faire toute la carte avant. Donc j'avais découvert, tu sais, il y a le même système un peu qu'Assassin's Creed où il y a genre des tours qui te font découvrir un peu les régions. Ouais. Donc moi j'avais toute la carte avant même d'avoir commencé le premier genre mini boss, on va dire, mais j'avais quand même pas trouvé les autres régions. Enfin les deux autres, enfin il y en a trois, il y en a quatre à trouver, tu vois, et j'étais juste genre je galérais à trouver ça. J'ai en plus tu tombes souvent, genre plus tu vas dans des régions compliquées, plus tu tombes sur des ennemis qui vont juste te one shot en fait. La région où il pleut, en fait, c'est fait exprès parce que justement, ils veulent que t'ailles rencontrer ce mec-là et que là, tu passes par la cascade. S'il pleuvait pas, j'aurais plus pu grimper, en fait, n'importe quelle montagne. C'était un peu, c'est pas tunnel, mais parfois, ils te disent bien, ouais, va faire ça. La région où il pleut, en plus, il y a tout le temps des éclairs et tu découvres, en fait, que n'importe quelle pièce de métal sur toi est potentiellement, mortelle. Donc, dès qu'il y a un éclair, tu vois, toute ton armure qui commence à genre, tu sais, avoir des étincelles, et là ton réflexe c'est genre t'ouvres ton inventaire et tu jettes tout. Genre tu lances tout parce qu'il y a quasiment pas d'endroit où tu peux éviter la foudre. Enfin donc ça tu le découvres, c'est la première fois que tu prends ton éclair, tu meurs en un coup, t'es là en mode ah.
Bah zut alors.
Est-ce qu'il y en a un de vous qui a joué au jeu ou pas?
Non, moi
je l'ai vu jouer seulement, mais je l'ai pas joué.
Okay.
Moi je l'ai joué, mais j'ai pas fini. Dédicace à mon frère qui doit me rendre ma Switch.
Et donc en arrivant chez les Aura, donc les Aura c'est un peu une tribu, c'est très amphibienne on va dire. Là-bas tu rencontres la tribu est encore là, donc eux, ils sont pas morts ou quoi, mais ils t'envoient vers la machine en fait. En fait, tu vas rencontrer les quatre héros qui vont prendre possession un peu de quatre grosses machines qui vont pouvoir taper Ganon, on va dire. Enfin, Ganon. Et les Aura, leur machine, c'est, je crois que c'est l'éléphant. Mais bref, en fait, ils ont des formes un peu différentes. Et là-bas, évidemment, tu bats un boss, et là, bah, il y a un fantôme qui ressort, et là, c'est le fantôme du héros. Et à chaque fois, il y a des cutscenes qui te montrent un peu ton, enfin, pendant tout ce moment-là, t'as toujours des flashbacks de comment tu t'entendais avec le héros il y a 100 ans. Parce que toi, Link, en fait, tu te réveilles, mais tu te rappelles de rien. Et en fait, bah, Zora, c'est ta meuf, limite. Enfin, t'as une histoire d'amour avec elle. Et du coup, elle est là en mode, allons faire un dernier truc ensemble, à deux. Et on va aller battre Ganon ensemble. Et donc, elle reprend possession du truc. Et tu vois, déjà là, t'as tes premières larmes. Normalement, parce qu'en fait, tu te rends pas compte, quand tu les vois réapparaître, etc., tu comprends pas qu'ils sont morts, en fait, les héros.
Ouais.
En petit spoil, du coup, après le premier, tu comprends que les autres, ça va être la même chose, tu vois. Mais, et en fait, tu fais revivre un peu leur esprit. Et leur esprit, il est là en mode comme si on était il y a 100 ans et c'est reparti, tu vois. Alors que, en fait, tu comprends qu'il y a 100 ans, en fait, ils se sont fait défoncer, quoi. Tout le monde a perdu et ils sont tous morts dans leur bataille.
Mmh.
Et donc, en fait, leur esprit est un peu emprisonné dans les mini-boss, je dirais. Quelque chose comme ça. D'ailleurs, les puzzles de cet endroit-là sont super bien faits, en fait. Tous les mini-boss à battre. Il y a tout plein de puzzles. Puis c'est super bien fait. Honnêtement, genre, enfin, tu sais, ils sont complexes, mais, enfin, pas trop complexe pour que t'ailles pas directement voir des solutions sur internet, tu vois. Mmh. Genre, tu vas quand même essayer de te débrouiller, tu vas peut-être arriver à faire les trois quarts, peut-être le dernier quart, tu vas dire, bon, là, vraiment, j'y arrive pas. Tu peux la regarder, mais la plupart, je les ai vraiment fait sans solution, donc c'est vraiment sympa.
Et c'est assez varié aussi de mémoire.
Ouais. Franchement, genre, ouais, c'est à chaque fois une mécanique différente, sur chaque boss. Donc, vraiment, vraiment cool. Et donc là, ouais, donc tu sauves les auras. Donc là, à partir de là, déjà, c'est quoi déjà le pouvoir des auras? C'est, je saurais pas dire là comme ça, mais en gros, ça te donne un certain pouvoir un peu spécial que tu vas pouvoir utiliser. Et donc, grâce à ça, déjà, tu te sens, t'es un peu plus puissant, on va dire, genre, tu peux un peu plus faire le malin, quoi, sur la carte. Et derrière, en fait, quand j'ai vu qu'il y avait un pouvoir, là, je suis un peu regardé les solutions, puis j'ai vu que les trois autres avaient aussi d'autres pouvoirs. Et que tout le monde conseillait d'aller genre voir le peuple des oiseaux, je sais plus comment exactement ils s'appellent, mais parce qu'en fait lui il te permet en fait de mettre une énorme tornade qui te fait t'envoler et après tu mets ton paravent et tu peux aller un peu où tu veux, donc rien que pour te déplacer plus rapidement, c'était vraiment sympa. Donc je suis allé sur cette carte là et là rebelote, donc tu grimpes tout un truc pour finir par trouver leur village. Tu trouves en général, c'est marrant aussi, tu trouves toujours genre le frère ou la sœur ou le meilleur ami du héros qui t'aide un peu à aller retrouver la machine. Cette fois-ci, c'est genre un énorme aigle, je crois, ou quelque chose comme ça. Genre une machine en bois. Tout est un peu en bois, mais ça vole et tout, donc c'est marrant. Et donc là-dedans, tu vas retrouver pareil ton pote qui lui un peu est le blagueur, tu vois, de la bande, on va dire. D'ailleurs, en parallèle, t'as un peu une mission additionnelle que t'es pas obligé de faire. Il y a beaucoup, beaucoup de side quests, mais où Zelda t'envoie aller chercher tes souvenirs. Et en fait, moi, je l'ai fait après. En fait, complètement solucé, hein, parce que honnêtement, c'est genre t'as des photos sur ton iPhone et il faut que tu retrouves l'emplacement de la photo. Et là, ça te donne le souvenir. Mais en fait, l'open world est tellement grand que retrouver exactement l'emplacement de la photo, j'ai pas la moindre idée, en fait. Genre, même avec un point sur une carte dans les solutions, j'avais parfois du mal à retrouver le truc. Donc, mais en le faisant, en fait, c'est trop cool parce que tu vois un peu, genre, tu sais comment les quatre, c'est tes potes, et il y a Zelda, donc t'es à 6. Tu sais, genre, quand tu bats les boss, etc., là, quand tu revois ça, t'es là en mode, ah ouais, en fait, c'est encore plus profond que ce que je pensais. Et donc, ouais, lui, c'est un peu le marrant de la bande. Donc, pareil, tu l'aides, tu débloques ça. Et derrière, je suis allé dans le village des Gerudo. Donc les Gerudo, c'est hyper spécial parce qu'en fait, c'est que des femmes. En fait, c'est des comment ça s'appelle déjà les Valkyries. Ah, ouais, Amazon Valkyrie. Enfin, c'est un peuple du coup que de femmes. Mais tous les je sais pas combien d'années, bah il faut bien un homme parce que sinon le peuple il va mourir, quoi. Et en fait, la légende dit que le dernier homme, en fait, c'est Ganondorf, qui est un Gerudo. Et du coup, lui, il a vraiment mal tourné. Mais elles sont toujours là en mode non, nous on veut faire le bien. Et sauf que pour entrer dans le village, tu es Link, tu es un homme, tu ne peux pas rentrer parce que tu es un homme. Donc la méthode, c'est genre, tu sais, c'est un peu genre la partie un peu stealth, genre tu te fais pas trop repérer, tu arrives à rentrer dans un shop, tu voles des fringues de filles et puis après bah t'es déguisé en fille, du coup ça passe. Parce qu'évidemment personne ne voit la différence dans le village. Et du coup ce boss là, donc c'est plus dans le désert, et donc tu vas pareil aider à retrouver je sais plus comment elle s'appelle, je crois, enfin en fait il y a la chef du désert, je me demande si, non elle, il me semble qu'elle aussi elle est morte, mais en fait c'est juste que tu les vois en vrai parfois et ils t'aident, et donc t'es pas capable de dire si c'est des fantômes. Mmh. Puis après à la fin tu comprends que, mais je sais pas, dans les faits ça passe quoi. Après donc la tribu du désert, tu vas, enfin moi je suis allé donc dans le dernier, c'est un peu genre, c'est un peu des gros golems qui, c'est des comment ils s'appellent déjà, les Daruk, voilà, ça je l'avais noté. Non, les Gorons,
pardon. Oui, les Gorons, je m'en souviens.
Les Gorons, et eux, ils sont déjà dans d'autres jeux, mais c'est vraiment, ouais, des petits golems, on va dire. Et c'est très volcan, etc., à l'endroit où t'es. Il fait très chaud, il te faut une armure qui te protège du chaud. D'ailleurs, dans le désert, il te faut des vêtements qui te protègent du froid, parce qu'il fait trop froid. Donc, à chaque fois, t'as des mécaniques pour pouvoir rentrer, en fait, dans ces villages-là. Et en fait, après les Gorons, moi, je jouais, j'étais à fond. Franchement, genre, Breath of the Wild, c'était mon premier jeu single player depuis peut-être 6-7 ans. Je crois que ceux d'avant, ça devait être... J'avais fait la série entière des Assassin's Creed. Et puis, je crois que j'en avais juste eu marre d'avoir des jeux solo. Genre, après ça, genre... En même temps, quand tu les enchaînes, je crois que j'avais fait 2-3-4. Les Assassins, c'est... La mécanique est quand même très similaire. Donc, après le 4, t'es très content d'arrêter, quoi. Mais pareil, l'histoire, en fait, m'avait un peu happé. Donc, et en fait, j'arrivais plus à jouer à des single players, genre c'était juste, je jouais qu'à des jeux multi. Il fallait que j'ai un peu ce côté un peu social pour jouer même. Là où je me demande même si, genre, est-ce que genre j'en avais pas ras le cul des jeux vidéo, et en fait je faisais plus ça pour être avec des potes. Et en fait ce jeu-là, j'ai joué en vacances, Breath of the Wild, et là j'étais à fond. Enfin vraiment, je pouvais pas le lâcher, tu vois, le jeu. Et arrivé à là, la suite logique, c'est d'aller battre Ganon. Et en fait, j'étais tellement triste parce que je sentais la fin arriver, tu vois. Genre merde, la fin va arriver. Si je bats Ganon, le jeu il est fini. Tu vois. Et donc j'ai éteint ma console et je ne l'ai pas touché pendant un an et demi.
Oh wow.
Les 3-4 mois tout à l'heure, je trouvais que c'était beaucoup, mais un an et demi.
Parce que je voulais pas finir le jeu, tu vois. Genre, juste le fait de me dire, en fait, le jeu va se finir et puis j'y jouerai plus. Parce que moi, je suis pas trop du genre à aller faire les jeux à 100% ou rejouer les jeux. Ça m'arrive sur les jeux plutôt de quand j'étais petit. Parce que déjà, un, la majorité du temps, je les avais pas finis. J'étais juste trop con. Et deux, parce que la nostalgie de, tu vois, genre, un StarCraft 1, StarCraft Blood War, ça, c'est des campagnes que j'ai fait 8-9 fois, juste parce que tu vois, l'histoire elle est aussi prenante. D'ailleurs, genre, j'ai vraiment hésité entre les deux, mais c'était un peu triché parce que StarCraft, j'aurais fait 1, Blood War 2, et 2 il est divisé en 3, donc l'histoire on est sur
un monument,
une heure à raconter, surtout si je prends des notes, ce que j'ai évité ici. Et donc ouais, et en fait arrivé à donc j'ai fini par rallumer ma console, et là je me suis dit, bah, pour reprendre, parce que déjà quand tu sors d'un jeu là pendant longtemps, tu sais, t'as tous les contrôles, tous les machins à prendre. Je me suis dit, bah, je vais faire des side quests. Dans les side quests, bah, évidemment, je suis allé récupérer l'épée, que je n'avais pas, en fait. Je savais même pas, en fait, qu'elle existait. Donc, ça, évidemment, c'est en regardant plein de vidéos de... comme j'ai dit, j'ai passé un temps fou à regarder, genre, les théories, les machins, les trucs. En essayant pas trop de me faire spoiler, mais honnêtement, je savais à quoi m'attendre. Tu sais, genre, j'allais battre Ganon, puis les fantômes allaient tous m'aider, puis ça allait être, genre... Tout est bien qui finit bien dans le meilleur des mondes. Et en fait, là où je me suis fait happer dans tout ce qui est théorie, c'est que à ce moment-là, ils avaient déjà annoncé Breath of the Wild 2. Et c'est un mini-clip, ça dure quoi, 1 minute 30, où tu vois Zelda et Link dans un peu une espèce de grotte. Et là, en fait, tu vois un corps inanimé, d'où la calamité Ganon, donc c'est un peu l'ennemi, sort. Et d'un coup, il se passe quelque chose qui rompt un peu un sort. Et là, t'as le cadavre qui se réveille et qui te regarde. Et ça a l'air d'être un homme. Il a des longs cheveux rouges. Et il a un corps type, Gerudo. Et donc là, en fait, tu comprends que t'es en train de réveiller un Ganondorf qui, est peut-être, en fait, le Ganondorf de, Ocarina of Time, tu vois. Parce que dans Ocarina of Time, la fin, ils ont jamais montré, enfin, en fait, si, ils ont montré que tu lui mets un coup d'épée pour qu'il meure. Et dans la vidéo, l'endroit d'où sort le sort, c'est l'endroit où
tu lui as mis le coup d'épée.
Il s'est fait planter, ouais. Tu vois. Donc, en fait, tu comprends que quelqu'un a dû le maintenir en vie un peu. Et c'est là où, genre, là, tout le théorie, le machin, le truc, j'ai ressorti ma 3DS, ma DS. Et je me suis fait tous les Zelda, tu vois. Genre, j'étais là, genre, il faut que je me fasse les Zelda. Et j'ai essayé un peu de les faire dans le désordre quand même pour voir si ça avait un peu un sens, tout ça. Et en fait, il me reste juste Ocarina of Time, qui est le plus important. Et à chaque fois, ma 3DS, elle est là-bas. Puis à chaque fois, je l'allume et je sais plus où j'en suis. Et j'ai l'impression que Ocarina of Time, j'ai dû faire 12 fois l'arbre Mojo.
Ouais.
Qui est genre la première partie, c'est genre un gros arbre qui t'apprend, qui fait ça, voilà ton épée, voilà ton truc.
C'est un peu long là, le tout début, je trouve, de Kind of Time.
Ouais, il est long, mais j'ai l'impression de l'avoir fait, je sais pas, une dizaine de fois, et j'ai jamais récupéré l'ocarina, moi, genre, j'ai jamais vu l'ocarina. Donc c'est drôle, mais ouais, voilà. Et donc, en fait, à la fin, je suis quand même allé déglinguer Ganon, qui est super facile, en fait, quand t'as les quatre, qui t'aident, là où c'est super compliqué, en fait, quand t'as, enfin, peut-être les speedrunners, ils le font, mais, honnêtement, j'irais pas sans ça. Surtout que, il me semble que, à un moment, il entre une phase où il est invincible, et du coup, tu dois faire un certain truc. Mais moi, j'avais pas les armes pour. Et donc, en fait, il me restait plus que mes pouvoirs pour lui faire des dégâts. Tu sais, t'as un truc qui fait une espèce de gros dégâts. Genre, je crois que tu mets des gros éclairs ou un truc comme ça. Et ça passe l'invincibilité. Donc, en fait, je me retrouvais comme un connard à attendre 15 minutes que ça recharge. Ah, je faisais des dégâts. Puis là, je tournais autour de lui pendant 15 minutes. Puis là, je refaisais des dégâts. Donc, vraiment, genre, c'était censé être facile, tu vois. Il n'avait plus beaucoup de vie, mais je sais pas, je me suis merdé quelque part. Je pense que j'avais aussi une mauvaise visibilité de comment le battre. Parce qu'il devait y avoir un autre truc, puis je voulais pas me spoiler, je voulais pas aller voir les solutions. Donc, bon, remarque, ça me donnait du temps de jeu en plus. Hein. Pas le temps de jeu le plus fun, mais du temps de jeu quand même.
Est-ce que tu peux aller le battre, tu peux aller le battre sans avoir demandé de l'aide à tous les fantômes?
Ouais, tu peux y aller directement, en fait.
Mais ça, c'est cool en termes de jeu ouvert. Mmh. Parce que ça veut dire que, genre, c'est pas scripté, il y a pas un truc qui te bloque, en fait.
Ça. C'est pas tunnel. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que les mini-boss, que tu bats là dans les machines, tant que tu les as pas battus, en fait, ils sont dans le combat de boss de la fin. C'est juste qu'après, en fait, ils disparaissent, enfin, parce que tu les as battus autre part. Donc, c'est hyper bien fait, en fait, comme principe. C'est juste qu'il est, en fait, Ganon est déjà, il est plus fort, mais en plus de ça, il a toutes ces phases d'avant que tu dois battre, tu vois.
Ah, c'est ça, tu peux complètement définir toi-même ton combat final, quoi. En fait, si tu passes des heures sur le jeu avant, finalement, effectivement, bah, Ganon, il est genre, easy peasy, quoi.
Ouais. J'espère pas dire de conneries, c'était mon ressenti, en tout cas. Et puis, en voyant des vidéos d'autres personnes, ça va l'air d'être ça, surtout les speedrunners, du coup, parce que, tu sais, les speedrunners, ils vont directement là-bas. Ouais. Moi, je suis là, genre, votre fight avait pas du tout l'air de ça, tu vois. Il y avait juste la fin. Mais ouais, voilà, c'était, le jeu vaut vraiment le coup rien que pour l'histoire. Je pense pas que, tu sais, il y a toujours des modes où c'est un peu plus aventure, un peu plus arcade. C'est vraiment parce que je sais qu'il y a pas mal de gens qui ont de la difficulté avec le fait que toutes tes armes se cassent.
Mmh, ouais.
C'est ça. C'est marrant parce que du coup moi je fais de la recherche utilisateur pour Ubisoft. Bon, j'en parle pas trop, tu vois, normalement dans les choses, mais maintenant quand je vois les jeux, je repense obligatoirement à comment ça a été testé, etc. Et c'est vraiment le point, quand je parle aux gens de Breath of the Wild, c'est vraiment le point de friction entre les gens, et c'est un beau 50-50. Et eux, ils ont juste pris la décision de, bah, on va le garder parce que c'est innovant. Enfin, tu sais, dans les Zelda, ça, normalement, ton arme, elle se casse pas, quoi. Mais beaucoup de gens ont dit, étaient vraiment genre, oh, Breath of the Wild, j'ai bien aimé, mais les armes qui se cassent, vraiment relou. Enfin, tu vois. Et du coup, c'est drôle, genre, t'as l'impression, genre, il y a toute une histoire, le jeu est parfait, mais ils vont rester là-dessus, tu vois, sur l'arme qui se casse, tu vois, et c'est genre, ah ouais, mais, tu vois, genre, c'est tellement facile de trouver une arme, au pire, tu prends un bout de bois, enfin, tu sais, tu peux te battre avec un bout de bois et quand même réussir à taper un ennemi et le désarmer et puis lui prendre son arme, enfin.
Ah, c'est cool, ça.
Donc vraiment, genre, le tout est super bien fait. Quand j'ai repris aussi, j'ai fait, bah, toute la partie, comme j'ai dit, où j'ai triché avec les souvenirs. Parce que ça me remettait aussi dedans, puis en fait, genre, je me remettais à voir ça. Et j'ai pleuré pour tous les mini-boss et le boss final. Voilà. Et même quelques souvenirs étaient vraiment genre... Parce qu'en fait, ils savent dans les souvenirs, ils savent qu'ils vont devoir combattre. Puis ils en parlent et ils sont là en mode, mais... Enfin, tu sais, Zelda, tu vois aussi un peu une partie de l'histoire de Zelda où elle, c'est censé être elle qui bat Ganon. Et en fait, elle dit qu'elle se sent qu'elle est pas capable, qu'elle a pas genre les capacités pour. Et puis toi, t'es là en fait pour l'aider. De base, c'est pas toi qui est censé sauver, tu vois, c'est censé être Zelda qui s'en occupe. Mmh. Et en fait, au final, c'est toi qui te foires, et c'est Zelda qui est obligé de mettre sa vie pour bloquer, en fait, Ganon à juste le château.
Mmh.
C'est pour ça qu'au début, quand t'arrives, les tribus continuent à être là et vivre. C'est juste que la calamité, elle s'est pas encore développée, mais elle prenait trop de puissance, du coup, bah, toi, tu te fais réveiller. Et là, en fait, quand tu finis par battre le boss, après un mini-boss où Zelda t'aide, et elle est genre un peu en fantôme à côté de toi. Et genre là, tu la bats avec Zelda, tu vois, avec toi. Donc vraiment, genre, l'histoire est trop bien faite. Rien que de le raconter, tu vois, j'ai encore des chills, genre, de me remémorer, genre, l'histoire. Et c'est sûr que si je la refaisais, genre, je pleurais à nouveau, quoi. C'est, sûr et certain, parce que genre, je sais pas, le c'est trop bien amené en fait, c'est trop tu sais, c'est touchant en vrai, l'histoire elle est touchante et pour tous, tu vois, genre, enfin, tu sais, de voir un peu réanimer des morts mais d'une belle façon et qui t'aide, genre t'as toujours ce truc de waouh, donc
j'ai grave envie de le faire.
Cool, ça donne trop envie. Switch, là.
Ouais, même si vous voulez faire un épisode, mais genre dédié à ça, vraiment avec les détails de l'histoire et tout, genre franchement, genre il y a tellement de contenu et je comprends pourquoi la hype elle est énorme avec le 2, c'est que genre les gens ils ont envie de, tu sais, de voir c'est quoi là ce petit cadavre qui se réanime, tu sais, genre, et aussi comment c'est relié à tout, parce que t'as beaucoup aussi de fresques, tu sais, t'as des peintures dans des grottes, des machins, des ruines. Où tu peux lire les choses, où on t'explique des choses, où les Sheikah, quand tu vas dans un temple, il y a toujours un espèce de moine Sheikah un peu mort qui te donne, genre, tu sais, de l'énergie ou un truc comme ça. Et même lui, il a une petite phrase qui va aussi dans le lore. Donc, franchement, genre, tout est fait pour que, quand il y en a plus, il y en a encore. Ouais. Genre, si tu savais pas qu'une timeline existait avec Breath of the Wild, tu peux pas la louper, quoi. Enfin, il y a trop tout en fait, et la carte va être réutilisée, donc tu sais que t'es au même endroit, donc tu sais que c'est obligatoirement t'es dans le passé ou dans le futur.
Ah, c'est trop bien.
Il y a eu une nouvelle bande annonce là avec à l'E3. Ça a l'air d'être plutôt le passé, ce qui choque un peu les gens, parce que du coup ils pensaient que ça allait être le après, tu vois, qu'en fait on n'avait pas du tout encore battu Ganon, et donc ça va rajouter encore plus, ça se trouve, de toute l'histoire camaraderie avec les autres, quoi. On va sûrement les voir plus. Et après t'as Hyrule Warriors aussi qui ont une side story. Ça, c'est un jeu genre de combat où là, t'es avec les héros vivants et donc t'as ce truc-là. Ça aussi, il faut que je le fasse, je l'ai, voilà.
Putain, c'est cool. J'ai grave envie de le faire. Je vais l'acheter à Laure pour sa Switch et j'emprunterai la Switch de Laure aussi.
Sinon, vous le faites à deux, là. Tu meurs, tu donnes la manette.
Ah, mais il y a tellement d'heures aussi.
Ouais, il faut passer beaucoup de temps ensemble, là.
Ça, c'est faisable.
Oui. Mais c'est juste en hiver.
On ira plus travailler, quoi.
En hiver à Montréal, en fait. En hiver à Montréal, à la limite. C'est pas comme si, genre, on allait faire autre chose, quoi.
Oh, il n'y a pas d'été à Lille non plus, de toute façon. C'est clair.
On arrive là déjà sur la fin de ce premier épisode bonus crossover qui était super cool. Du coup, on a parlé de Heavy Rain avec toi, Laure. On a exploré Control avec toi, Noah. Et on a fini sur le fameux Zelda qui est tant apprécié par Yann. Comment on conclut cet épisode? Est-ce qu'il y a un truc que vous voulez rajouter? Dites-nous tout.
Ben, merci beaucoup. En tout cas, merci de nous avoir invités, Chris et Yann. C'était vraiment, vraiment cool. J'ai un peu l'impression que c'est la pluie aussi, enfin, qui a relié toutes ces histoires, parce que il y avait de la pluie dans Eviren. Tu nous as parlé aussi, toi, Yann, de la pluie dans Zelda. Et pour moi, Control, c'est aussi chiant qu'un jour de pluie. Donc, du coup...
Ah, je l'attendais, celle-là.
Non, mais enfin, merci. C'était grave cool.
Ouais, c'était notre tout premier crossover. Au début, Force the Plot, c'était avec des invités. Et puis bon, après, un événement un peu particulier est arrivé. Donc, on s'est mis à discuter à deux. Et on n'avait plus l'occasion, en fait, de faire du podcast autrement que nous deux. Et donc du coup c'était un peu chouette, c'était vraiment même très chouette de genre retrouver ce feeling là, c'était vraiment cool.
Carrément.
Si je peux ajouter un dernier truc, c'est pour Chris, mais le prochain épisode, s'il y en a un, t'as intérêt à nous trouver un jeu. C'est tout ce que j'ai. Là, il nous faut l'histoire de Chris, tu vois.
Oui. Ah oui, on laissera pas passer. Ah,
j'ai voulu parler initialement de The Last of Us, mais je me suis dit, les derniers épisodes, on a quand même beaucoup parlé. Flemme de répéter. Mais ok, c'est noté.
Ah, s'il le faut, même, tu joues à Breath of the Wild, puis tu donnes ta version, tu vois. On trouvera.
Alors, j'ai détesté.
Les armes qui se cassent. En tout cas, c'est trop cool.
Oui.
Trop bien. On se dit à une prochaine, à bientôt.
Oui,
à la prochaine.
À bientôt.
Des bisous.
Salut, salut.
Ciao. C'était Du Temps et des Jeux, musique composée par Baxter. Si tu apprécies le podcast, parle-en à un ou une pote et partage-le sur les réseaux. Tu peux aussi nous mettre 5 étoiles et nous laisser un avis positif sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup. Enfin, tu peux nous suivre sur les réseaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. Allez, à la prochaine. j'ai pas encore coupé. Là, je pensais à un truc qui serait trop cool de faire. Je sais que vous faites souvent des petits easter eggs. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en fin d'épisode? Je sais pas si vous avez une idée.
Non, je réfléchis. Parce que nous, on rajoute soit notre générique bruité à la bouche ou genre les trucs qu'on voulait couper, tu vois.
Si vous voulez, vous pouvez lâcher votre top 3 jeux vidéo.
Ah ouais. Mon top 3 jeux vidéo, il y a Dungeon Keeper, qui est un jeu genre super vieux. Et pourquoi il est dans mon top 3, c'est parce que c'est le premier jeu auquel j'ai joué vraiment. C'est un jeu de donjon où tu contrôles les méchants au lieu de contrôler les gentils. Je pense que ça a forgé l'adulte que je suis aujourd'hui. Quoi d'autre? Contrôle vraiment, hein. Et il est dans mon top 3, genre de jeu que j'ai adoré. Et sur le même principe, un grand classique, j'imagine qu'il est un peu dans le top 3 de tout le monde, il y a Journey aussi, qui, genre, je l'apprécie moins avec le temps parce que je l'ai trop fait, mais ça reste aussi un jeu qui a marqué un peu l'industrie du jeu vidéo. Et j'ai toujours un petit truc ému pour ce jeu. Quand je veux faire découvrir le jeu vidéo à quelqu'un, je montre Journey. Donc voilà, c'est mes trois préférés.
Cool.
Et toi alors?
Je sais pas dans quel ordre je les mettrais, mais je mettrais Resident Evil 4, qui est mon premier Resident Evil sur GameCube, et c'est un jeu que j'adore vraiment. Je pense que c'est vraiment ça qui m'a refait me remettre dans le jeu vidéo à fond. Je sais pas, je l'ai fait, je devais avoir 17 ans, c'était trop bien. Bioshock Infinite, qui est magnifique et qui m'a fait découvrir toute la saga des Bioshock, Bioshock, qui est pareil, qui a un lore extraordinaire, qui a des histoires de fous. C'est vraiment un jeu très joli aussi. Enfin, en tout cas, à l'époque, quand je l'ai acheté sur PlayStation 4, c'était magnifique. Et pour le troisième, je dirais un jeu, je sais pas si c'est mon préféré, mais c'est un jeu auquel j'ai beaucoup énormément joué et que je joue encore, c'est Mortal Kombat, et c'est Mortal Kombat 10. Il y en a eu d'autres, mais Mortal Kombat 2 est un de mes premiers jeux, vraiment, sur console en tout cas, et voilà, j'ai une affection particulière pour le sang, pour les fatalities et pour les gros combats, enfin les tournois de Mortal Kombat qu'on fait, Noah, toi-même tu sais. Voilà.
Oui, ah donc c'était le 10.
C'était le 10.
À l'anniversaire de l'or, il ouais. Y avait plein d'activités et une des activités, il y avait un tournoi de Mortal Kombat.
Voilà.
J'ai perdu.
C'est perdu.
En demi-finale. Ah non, en finale, j'ai perdu en finale.
Bon, alors moi, je joue toujours un peu ivre, hein, et je perds vraiment souvent rapidement.
Voilà. La question, c'est est-ce que c'était là en finale ou pas qui a gagné? Ouais.
Non, c'était ma petite amie qui n'avait jamais touché à Mortal Kombat de sa vie, qui a éclaté tout le monde uniquement par le pouvoir de sa volonté et que j'ai taunt. Juste avant le match, en disant, de toute façon, tu gagneras pas contre moi, et qui m'a laminé la gueule.
Dur.
Ouais, plus jamais.